Bon, imaginons une scène un peu folle. Une coalition politique remporte une victoire électorale massive.
Ouais, le genre de victoire qui marque tout un siècle, quoi.
Exactement. Il force même le chef de l'État à démissionner. Il s'installe au pouvoir. Et là, surprise.
Les caisses sont totalement vides.
Voilà, il n'y a absolument plus un sou. C'est en fait exactement ce vertige qu'a connu la France après les élections législatives de 1924. Et c'est notre exploration du jour.
C'est vraiment le choc frontal entre le triomphe idéologique d'un côté et le mur de la réalité de l'autre.
Oui, l'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer cette période. Comprendre comment une victoire politique écrasante peut se transformer en impasse financière totale.
Et pour ça, il faut vraiment se remettre dans le contexte de la France juste après la Première Guerre mondiale. L'économie est, disons, sous perfusion.
Ah oui, la fameuse illusion de l'Allemagne payera.
C'est ça. Toute leur stratégie budgétaire tenait là-dessus. C'était très rassurant sur le papier.
Sauf que l'Allemagne, elle paye pas. Ou alors vraiment au compte-gouttes.
Et ça change absolument tout.
C'est un peu genre tu t'endettes massivement pour refaire ta maison en pariant que c'est ton voisin qui va régler la facture.
Ouais, et quand le voisin refuse, tu paniques. Et tu décides soudainement de vider les tirelières de tes propres enfants pour survivre, en fait.
C'est terrible. Mais c'est la mécanique exacte. Et face à ce gouffre, le président du Conseil de l'époque, Raymond Poincaré, y panique complètement.
Totalement. Et il impose le fameux double décime.
C'est quoi déjà concrètement ce double décime?
C'est une hausse aveugle et super brutale de 20% de tous les impôts.
Ah oui, 20% du jour au lendemain, c'est massif.
Ah, mais ça frappe de plein fouet la classe moyenne, les artisans, les petits propriétaires, ceux-là même qui avaient voté patriotiquement à droite quelques années plus tôt.
D'accord, donc ça crée une colère fiscale immense,
C'est ça.
ce qui dicte une recomposition politique totale.
Oui. La gauche s'organise. Les radicaux d'Édouard Herriot décident de s'allier avec les socialistes de Léon Blum.
Le fameux cartel des gauches, ils s'unissent autour de la laïcité notamment, mais c'était pas gagné d'avance cette alliance illienne. Hein.
Non, pas du tout. Les socialistes de la SFIO venaient tout juste de subir une scission vraiment destructrice.
Les communistes qui partent, c'est ça?
Exactement. L'aile révolutionnaire claque la porte pour créer son propre parti. Ce qui fait que les socialistes qui restent refusent même d'entrer au gouvernement. C'est un accord strictement électoral avec les radicaux.
Mais attends, je bloque sur un truc là.
Vas-y, je t'écoute.
Si le Parti communiste refuse catégoriquement de rejoindre le cartel, ça divise les voix de gauche, non? Ça aurait dû les condamner face à la droite.
Eh bien, on pourrait le croire, mais c'est tout l'inverse en fait.
Ah bon? Comment ça?
En faisant bande à part, les communistes offrent un cadeau inespéré au cartel. Ils prouvent par les faits que l'alliance d'Herriot et Blum n'a rien d'une coalition bolchévique.
Ah, je vois. Ça rassure complètement l'électorat modéré.
Voilà, cet électorat craignait la révolution bien plus que tout le reste.
D'autant que la droite passait son temps à agiter le spectre du péril rouge.
Et la tension grimpe encore d'un cran quand le président de la République lui-même, Alexandre Millerand, brise la neutralité républicaine.
C'est fou ça, un président qui appelle publiquement à voter pour le bloc national à droite.
Oui, ça transforme la campagne. Le cartel se pose en défenseur de la République contre un président jugé trop autoritaire.
Et on arrive à ce résultat de mai 1924 avec une participation de 83%, ce qui est énorme.
Mais avec une anomalie mathématique totale.
Oui, parce que la droite gagne plus de voix au niveau national, mais c'est la gauche qui rafle la majorité absolue des sièges. Comment c'est possible un truc pareil?
Tout tient à la mécanique très particulière de la loi électorale de 1919. C'est pas un système proportionnel classique.
Ça accorde une prime aux alliances, c'est ça?
C'est ça. Si une coalition dépasse les 50% dans une circonscription, elle rafle la totalité des sièges.
D'accord, donc la droite qui s'est présentée divisée a éparpillé ses voix.
Exactement. Le cartel, lui, a fait bloc. Ils ont eu moins de voix au total, mais ont écrasé la droite dans les circonscriptions clés.
Et là, bim, majorité absolue à la Chambre. Et ils lancent la fameuse grève des ministres.
Oui, ils boycottent purement et simplement le président Millerand.
Ils refusent de gouverner tant qu'il est à l'Élysée. Le Parlement force donc l'exécutif à démissionner. C'est une démonstration de force absolue.
Une victoire institutionnelle, mais de très courte durée, par contre.
Ah oui? Pourquoi?
Déjà, le Sénat, qui est plus modéré, leur échappe. Il élit Gaston Doumergue à la présidence au lieu du candidat du cartel.
Premier coup dur.
Et ensuite, quand Herriot forme enfin son gouvernement, il se heurte à ce fameux mur de l'argent non.
Voilà. Les réformes se fracassent dessus. Et les caisses sont vides.
Mais c'est quoi concrètement ce mur de l'argent? C'est pas juste un concept abstrait.
Non, c'est une mécanique financière impitoyable. À l'annonce de la victoire de la gauche, les milieux d'affaires paniquent. Donc les investisseurs fuient.
Exactement. Ils transfèrent massivement leurs capitaux à l'étranger. Le franc s'effondre.
Et la Banque de France réagit comment?
Bah, à l'époque, c'est une institution privée dirigée par de grandes familles industrielles. Elle refuse purement et simplement de faire des avances au gouvernement.
Donc l'État se retrouve paralysé de l'intérieur. Il n'y a plus d'argent du tout pour lancer les réformes.
C'est ça. Cette plongée nous montre que l'arithmétique électorale pèse bien peu face aux réalités économiques brutes.
C'est vraiment vertigineux. On peut bien gagner légitimement, changer de gouvernement, on vote pas un budget avec des simples promesses.
C'est clair.
Ce qui soulève une interrogation fondamentale pour clore cette analyse. Que devient réellement la souveraineté d'une démocratie si les vainqueurs d'une élection obtiennent tout le pouvoir politique sur le papier, mais découvrent qu'ils sont instantanément neutralisés par les marchés financiers ?